Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Ravi de vous retrouver. Si vous n'allez pas à la NBA, pardon, la NBA viendra à vous. Paris se prend parfois pour le centre du monde et c'était un peu vrai en matière de basket. Cette semaine, deux matchs de la plus prestigieuse des ligues ont été délocalisés dans le cœur de la capitale française. L'occasion pour un certain Victor Wembanyama de revenir à la maison avec le maillot des Spurs. L'occasion pour Pascal Siakam, champion camerounais, de briller avec les Pacers. Mondial Sport revient ce dimanche sur les NBA Paris Games 2025. À Paris ou ailleurs, les parquets de la Grande Ligue n'ont pas besoin de nous pour être cirés, pour être lustrés. Nous ne sommes pas là pour faire de la pub, mais bon, on va pas se mentir. Je suis entouré par beaucoup de fans, de passionnés aujourd'hui.
Je suis venu de Finlande, voilà 30 ans que je regarde la NBA, c'est mon principal loisir. Venir voir jouer ces deux équipes à Paris, c'était une occasion à ne pas rater. Je m'attends à un super spectacle. Spurs. ACB, what's up? Hola, Spurs. ACG, what's up?
Je vais faire plus de bruit.
On assiste à tous les matchs quand nous sommes à San Antonio. Cette semaine, nous voulions encourager nos Spurs à Paris et voir Wemby jouer dans son pays.
Les Parisiens ne sont pas les seuls à avoir goûté à la NBA dans la ville lumière. Des Finlandais, même des Américains du Texas, de San Antonio, ont fait le déplacement pour aller voir leur équipe, celle qu'ils peuvent déjà aller encourager à peu près chaque semaine. Tiens, ça me rappelle quelqu'un qui se trouve à ma gauche. Bonjour Théo Quintard.
Bonjour Hugo, bonjour à
tous. Vous aussi, vous avez fait le trajet de San Antonio à Paris et pour un événement, le Wemby reporter en chair et en os, et non plus par téléphone dans Mondial Sport. On l'a attendu ce moment et voilà, il est enfin arrivé. Merci d'être là, Théo, et ça impressionne énormément Malik Dao, le MVP, la légende. Bonjour Malik.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Bonjour Victor Misistrano.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors vous aussi, vous revenez de la NBA à Paris, vous avez couvert ces deux matchs entre les Spurs et les Pacers de l'Indiana jeudi et hier pour RFI. Et puis nous accueillons une nouvelle recrue dans notre 5 majeur, un tonnerre d'applaudissements pour Sarah Danint, la championne d'escrime qui aime aussi le basket. Bonjour
Sarah. Toujours aussi fun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
On a pu le vérifier pendant les Jeux à Bercy aux côtés de Victor. Vous avez reconstitué le duo à ma droite en studio. Il y avait déjà à Bercy pour la finale, notamment face aux Américains, la finale des Français. Il y avait déjà du Wemby, il y avait déjà beaucoup de NBA. Finalement, vous en avez repris cette semaine. Tout le monde y allait ? Ah, c'est ouais. NBA Paris Games, vous-même Sarah, pour des raisons non professionnelles si je puis dire, pour des raisons simplement de passion.
Totalement, ouais, je dis, alors déjà moi c'est pas mon premier match NBA, mais c'est le premier à Paris parce que toutes les deux années précédentes j'ai quand même essayé d'y aller, mais les billets partaient quand même assez rapidement, et là je dis j'ai pu y aller, on a profité, alors on était à domicile côté Pacers, donc je pense qu'au niveau ambiance aussi il y a eu un petit, enfin ça a été différent de samedi à la télé. télé en tout cas. Et ouais, je lui dis, une grosse kiffance. En plus, avec, on en parlait à l'instant de Robinson, les anciens Manu Ginobili et tout ça. Ça, c'est, pour moi, c'est canon, c'est hyper beau.
C'est-à-dire que la NBA, elle se déplace pas seulement avec ses deux équipes qu'elle envoie délocalisée, elle envoie toute une caravane avec d'autres stars. Alors vous faites bien de le préciser. Jeudi, c'était à Bercy comme samedi, mais jeudi, c'était les Pacers qui recevaient. Exactement. Et hier, et c'est ce qu'on a entendu dans les ambiances hier à votre micro, Victor Misistrano, c'était bien les Spurs qui recevaient. Ça a fait un switch en termes d'ambiance. C'était un peu plus chaud hier.
Oui. On a tout de suite senti, bon, peut-être aussi, je sais pas, l'horaire, le fait qu'on soit samedi, que ce soit peut-être un peu plus familial. En tout cas, oui, la sono, ça change tout. Quand le speaker, il lance un Go Spurs Go, forcément, le public, il va suivre. Alors qu'on entendait parfois, je dis des defense, autrement dit, pour encourager les Pacers à défendre, alors que, bien sûr, il y avait une immense majorité des gens dans la salle qui supportaient les Spurs parce que Victor Wembanyama, mais pas uniquement, hein, c'est déjà une franchise très populaire en France.
Bah oui, parce qu'elle a aussi été celle de Tony Parker, donc ça. J'imagine qu'elle a fait beaucoup pour la popularité de la NBA. Théo Quintard, comment ça se compare, Bercy, à la salle des Spurs? Comment elle s'appelle, d'ailleurs, cette salle à San Antonio?
Alors, ça s'appelle le Frostbank Center, c'est le nom d'une banque.
Oui, je vais pas retenir ça. Je ne me prononcerai plus. Voilà, c'est la seule et unique fois qu'on entendra ça sur mon assoir. Je plaisante. Comment ça se compare alors, Bercy et cet endroit?
C'était déjà une ambiance un petit peu différente, une ambiance aussi française, parce qu'il y a eu des animations un petit peu françaises. Voilà, c'était un défilé. On en a parlé, les stars, on a vu Manu Ginobili, David Robinson, tous ces stars qu'on voit tous les jours à San Antonio. Ouais. Là, ils étaient là, alors que à San Antonio, dans le Frostbank Center, du coup, il y a plus des courses de bébés, des lancers de frites avec la marque texane, le Whataburger, qui est la chaîne texane. Donc voilà, c'était une ambiance américaine, mais à la sauce française, parce que la Ligue aussi était en opération marketing de communication pour conquérir le marché français, qui est le premier marché en Europe et qui est très important pour la NBA.
Ginobili et Robinson, vous nous les resituez, s'il vous plaît, parce que Sarah en parlait, t'es aussi très impressionné de les voir, des légendes, hein, comme on a parfois sur les tournois, les opérations en football, on a des anciens grands joueurs qui viennent, et voilà, c'est un
peu. Mais il faut dire qu'à un moment donné, quasiment toute la France et je dirais l'Afrique francophone était fan des Spurs parce que Tony Parker, mais il y avait Ginobili, il y avait David Robinson, avant eux, il y avait Sean Elliott, qu'on a revu très très affûté, toujours très beau, très fit. Voilà, on avait tous ces joueurs-là, Boris Diaw, qu'il ne faut pas oublier, qui a joué aussi au San Antonio Spurs, et donc ça faisait plaisir de les voir jouer. Et la grosse différence aussi entre jeudi et samedi, c'est que les fans des Pacers ont attendu d'être à Bercy pour acheter des maillots, alors que les fans des Spurs venaient avec leurs maillots de chez eux, parce qu'à la base, en France, on est plus Spurs que Pacers.
Est-ce que c'était difficile d'avoir des places? Oui, du coup, Sarah Danin, vous qui êtes allée, on va dire, en fan normal, si je puis dire. Oui, les autres années, c'était impossible.
Bah, les autres années, je suis pas parvenue. Pourtant, vraiment, je reste bien connectée sur mon ordi. Je pense que quand je suis.
C'était un problème de disponibilité ou juste de prix ou...
De disponibilité. Ouais, j'ai jamais pu en prendre. Et là, pour le coup, on a cherché, on a eu beaucoup de mal à trouver. On a trouvé un site, je sais pas comment, mais. Bref, et puis presque à la dernière minute, puisqu'on y a été jeudi, on a acheté les billets mardi dans l'après-midi, quelque chose comme ça. Et bon, par contre, quand même 300 balles, mais bon, ça reste de la NBA, on sait que c'est le coup, quoi.
Oui, les fans, alors on entendait un fan finlandais, notamment, donc, qui a fait quand même un petit trip, hein. C'est pas exactement à côté, la Finlande, par rapport à Paris, à Victor Misistrano, et dans un extrait de l'interview qu'on n'a pas diffusé, il disait qu'il avait dépensé, lui...
400 euros, voilà. Son ticket, plus 400 euros pour celui de son épouse. Effectivement, oui, c'est beaucoup ont cassé leur tirelire et beaucoup. Enfin, il n'y avait pas que cette dépense-là, il y avait le déplacement parce qu'on l'a dit, public très international. Il y avait des gens venus de Suisse, du Royaume-Uni, Londres et aussi Wisconsin.
Donc record de nationalité, c'est
exactement,
ça.
Exactement, 53, c'est ce que nous a confié Adam Silver, le boss de la NBA cette semaine.
Alors dans votre salle qui porte le nom d'une banque, à combien sont les prix? Ça chiffre aussi, Théo Quintard?
Alors combien sont les prix? Moi je prends pas de place, que j'ai la chance d'être accrédité à tous les matchs.
Voilà le banquier. Voilà le banquier.
pas mal.
Voilà, donc c'est gratuit, c'est l'avantage quand même de faire ce métier.
Mais est-ce qu'on est dans ces ordres de grandeur d'après ce que vous
entendez ? Mais il y a vraiment, pour les petits matchs pas intéressants, ça va être 10, 20, 30 euros, mais les places court size pour les gros matchs, ça peut monter à 1000 euros. Ça peut monter très haut, ça dépend vraiment du moment et des affiches.
Les amis de Mondial Sport se réunissent après le tourbillon de la NBA à Paris. C'est un petit peu un lendemain de soirée dans Mondial Sport. Alors qui dit soirée dit ambianceur. On entendra un ambianceur professionnel au micro de Victor Missistrano. Et qui dit lendemain de soirée dit kebab, évidemment. Et on entendra un vendeur de kebab au micro de Théo Quintard. Voilà une petite idée du programme qui vous attend sur RFI dans Mondial Sport. I no go change location. My killing, my lover, my confidant. Even times when I dey nonchalant, I go make sure say we dey okay. I go make sure say we dey gallant. And my poor people could they talk too much. They can't talk to my account balance. You're the only one who can understand. Yeah, we go together like a stack of money and a rubber band. My baby, where you dey? Why you dey test my patience? You go be my doctor, and I go be your patient. Oh baby, where you dey? Don't make me wait too long, cause I got all this love for you. Me usha mo stubborn, I just want my boo. Up ya no ju, eh, it's just been 2 days. I don't call wedding planner. Trendy B, Vicky James, make you cover for Bella Ninja. Me nobody tell me I'm moving too fast. I just won't love my baby so loud. Your body so fire. I've been up from Ghana. My killing, my lover, my confidant. Even times when I day nonchalant. Love Garden, Bosch dans Mondial Sport sur RFI. Wemby était donc de retour à Paris. On a parlé de l'ambiance, parlons du sportif, les Spurs contre les Pacers. Vous parliez de petites rencontres tout à l'heure, Théo Quintard. Alors je ne sais pas si c'était une petite rencontre, mais c'était deux rencontres de la saison régulière. Donc pas forcément des matchs parmi les plus passionnants. En tout cas, on n'est pas dans les matchs couperés des playoffs. Je parle sous votre contrôle. Une première victoire pour les Spurs à l'extérieur, entre guillemets, 140-110, c'est ça, ce jeudi. Et un cuisant revers, donc à domicile, toujours à Bercy, mais officiellement à domicile, 98-136. Est-ce que ça a gâché la fête? Alors, dans les travées d'un Bercy, on en a parlé largement acquis à la cause Spurs et Wemby. Quelques réactions de supporters au micro de vous, Victor Missistrano.
C'était un joli match. Bon, malheureusement, les Spurs ont un petit peu faibli sur la deuxième mi-temps. L'influx nerveux de jeudi est redescendu et là, c'était un peu sec.
Et l'ambiance, vous en avez pensé quoi ?
Moyenne. Je trouve que ça s'est un peu endormi ce soir. Heureusement qu'il y avait les ambianceurs pour relever un petit peu tout ça, toute cette chaleur. Mais ouais, un peu attentiste. Un public parisien, quoi.
Et Wembanyama ?
Il a un peu forcé ses actions. Il a un peu surjoué par moments. Je pense qu'il a voulu bien faire, mais ce soir, c'était pas un grand soir pour lui. Je pense qu'il aura de meilleurs soirs.
C'était super, super, super. Très chouette.
Belle ambiance. C'est en France. Beau souvenir.
Ouais, un trop grand écart. Et pas un grand match de Wembanyama, mais c'était quand même génial de pouvoir participer à cet événement à Paris. C'est génial. C'est top. Avec mon fils et moi, on va pouvoir se rappeler de ce que c'est la NBA, le vrai basket. Quoi.
Bah, c'était bien. Et c'était un bon match. On a perdu, mais c'est pas grave.
Et Wembanyama, il était comment ?
Il est grand.
Il est très grand.
Victor Missistrano qui c'est obtenir les informations qui comptent
au plus près
de l'investigation. Effectivement, il doit être très grand pour un petit garçon, Wembanyama. Mais est-ce qu'il a été grand sur le terrain d'un point de vue niveau sportif hier, moins sûr par rapport à jeudi, en tout cas
un peu moins que jeudi. En tout cas, en première période, ça avait assez bien débuté, même si c'était des actions peut-être un petit peu moins impressionnantes. Vraiment, jeudi, il a étalé absolument toute sa panoplie. Et en fait, ce qui s'est passé, je vois deux facteurs. D'abord, les Pacers, c'est pas n'importe qui comme équipe, c'est une équipe très solide qui a su trouver les ressorts et surtout les clés pour stopper Victor Wembanyama, qui était aussi sans doute un petit peu éreinté par une semaine fatigante émotionnellement.
Vous qui le connaissez bien, Théo Quintard, vous nous en parlerez dans un instant, mais je voudrais aussi l'avis de Malik Dao sur les performances de Wembanyama ce jeudi et ce samedi.
Alors jeudi, on a un grand Victor Wembanyama qui est bon des deux côtés du parquet. Je me souviens d'une action où il met un contre et puis sur la même action, il va poser un dunk dans la raquette des Pacers. Et puis hier, un Wembanyama qui vit un peu le contre-coup physique de toute cette semaine, parce que n'oublions pas que c'était un gamin. Il a beau mesurer 2m24, c'est un gamin et c'est fatigant. Toutes les sollicitations basket, toutes les sollicitations extra-basket aussi, les opérations de communication, de publicité, l'inauguration du playground au Chêne, là où tout a commencé. À un moment, ça se paye physiquement. Et on a vu un Victor Wembanyama, justement, qui en a souffert. Et puis...
Et d'ailleurs, il a été chahuté physiquement. On l'a vu se plaindre des décisions arbitrales qui ne sont pas venues.
Oui, parce qu'ils ont durci le jeu défensivement. Les Pacers ont durci le jeu. Et une des clés aussi de ce match, c'est Pascal Siakam qui est allé...
Ah bah j'allais voilà, vous demander.
Qui est allé s'installer dans la raquette. Parce que quand on regarde le match de jeudi, c'était presque un concours de tir à trois points. Et les Pacers, justement, ont fait les ajustements qu'il fallait hier avec un Siakam qui est allé beaucoup plus dans la peinture pour embêter un petit peu.
Alors parlons-en quand même du champion camerounais, parce que contrairement à Siakam, Wembanyama, il n'a pas remporté la NBA. Siakam l'a fait avec les Raptors de Toronto, ce qui nous permet de saluer un grand supporter, à savoir Karim Baldé, un ami dont on reparlera tout à l'heure pour des raisons culinaires. Et Pascal Siakam, champion NBA 2019, et finalement, il était aussi attendu d'un point de vue de RFI. Et hier, il a pas loin. Il a un peu éclipsé, non, Wemby? Vous en pensez quoi, Théo Quintard?
Bah, je pense que sur ce sujet-là, c'est Victor, parce qu'il l'a bombardé de questions sur le Cameroun.
Toute la semaine, je me suis fait chambrer par les autres journalistes. Parce que
c'était Pascal Siakam et pas Wemby.
La question était pour moi. Hein.
Bah, c'est bien, vous avez été le bon élève. Alors simplement, le Wemby reporter Théo Quintard, vous confirmez, vous n'avez pas forcément reconnu Wemby hier, et peut-être que tout le cirque, entre guillemets, autour de lui, ça a joué.
Pas forcément reconnu, non, je sais pas, je pense que c'est surtout qu'il y avait énormément de pression. Je pense que sur le premier match, il était sous pression, il fallait gagner au moins un des deux matchs, mais au final, c'est une mission réussie. Il a conquis le public, il a conquis deux jeunes fans qui seront fans des Spurs maintenant toute leur vie, j'ai envie de dire carton plein, et puis surtout en conférence de presse, on l'a vu très ému, presque au bord des larmes. Et voilà, pour lui, jouer en Île-de-France, né au Chênay, formé à Nanterre, qui a joué après à Boulogne-le-Valois. Île-de-France, c'est un petit peu toute sa vie. Et on l'a vu très, très ému. Et c'est très, très important pour lui de jouer à Paris.
Sarah, vous avez ressenti ça, parce que vous avez vu le bon match pour Wemby, celui où,
oui,
celui où
il
gagne.
Et contre,
et vous avez senti, comme au jeu, ou même encore plus qu'au jeu, que vraiment la greffe avec le public français, elle est totale.
Les jeux, c'est particulier. Je pense qu'il y avait une union aussi qui était forte, surtout le contexte politique dans lequel on était. Et je pense que c'était assez particulier. Mais je pense qu'il a encore grappillé encore plus de Français à sa botte. Je ne sais pas comment le formuler, à sa cause.
Oui, ralliés,
mais, ouais. Et puis moi, je rajouterais qu'en plus de Siakam, il y avait aussi Haliburton quand même, même un bon match. Parce que là, pour le coup, au niveau des points, ça a scoré aussi. Quoi. Donc je pense que c'est pas juste...
Dès que lui est à droite, les Pacers, c'est une autre équipe.
Il était sur une autre planète. Il y a vraiment un troisième carton. On a l'impression qu'il lançait la balle en l'air et elle atterrissait quoi qu'il arrive dans le panier.
Alors, on peut parler de lui, mais c'est vrai qu'on a envie de parler de Siakam. Alors du coup, vous l'avez bombardé de questions, notre ami Pascal Siakam, il a été comment alors?
Eh bien, il était assez détendu, content d'être là, vraiment, même si bon, tous les joueurs, bien sûr, l'affirment, parce que c'est un petit peu dans la grande caravane de la NBA, l'idée c'est de montrer qu'on est content d'être à Paris. Je pense qu'il l'était vraiment, il aime beaucoup parler en français, répondre en français, c'est quelque chose qu'il apprécie, et il l'a fait de façon assez détendue, et à la fin, vraiment, hier soir, il était là, et il disait « Merci Paris, on a été très bien accueillis », et je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment ressenti, et en plus, il a fait deux bons matchs, et c'est... On s'est encore aperçu du style de joueur qu'il était, à savoir un joueur extrêmement fiable et constant. Il met toujours 20 points et c'est ce qu'il a fait.
Mais je pensais, même moi, sur le match de jeudi, à la place de Bénédicte Mathurin, pour le mot de bienvenue, je pensais que ce serait Siakam. Bon, ils ont choisi Bénédicte Mathurin.
Le mot de bienvenue exactement?
C'est-à-dire Victor Wembanyama qui s'exprime en français
juste avant
au public de Bercy. Et puis, un joueur de l'autre équipe, et en l'occurrence, c'était Bénédicte Mathurin.
Donc ça fait partie du show NBA. On demande aux joueurs de contribuer à mettre l'ambiance, si je puis dire, à chauffer le public. On a néanmoins entendu des spectateurs au micro de Victor Missistrano qui ont trouvé l'ambiance décevante. Vous êtes d'accord avec ça ou vous avez l'impression que bon, ils sont un petit peu rabat-joie.
Ça dépend. Ouais. L'ambiance va aussi avec le déroulement du match.
Il aurait fallu en gros que les Spurs gagnent pour voilà, que l'ambiance soit au top hier.
Si les Spurs gagnaient ou si c'était un match un peu au couteau, l'ambiance serait montée d'un cran. Mais rapidement, on a su que ce match serait, comme ils disent là-bas, un blowout. Quoi.
Un blowout, c'est-à-dire
une purge.
Une purge. ça va mieux en français, hein. Reconnaissez-le. Simplement, Théo Quintard, l'enjeu sportif exactement de ce match. On a parlé de saison régulière. Qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre d'un côté comme de l'autre sur ce match?
Bah, déjà, Victor Wembanyama l'a rappelé. Pour lui, la priorité avant toutes les sollicitations médiatiques, c'était vraiment le sportif. Et avant de venir ici à Paris, les Spurs étaient un petit peu dans le creux de la vague. Ils étaient à une victoire sur les 7 derniers matchs, je crois. Ouais. Là, ils ont fait 1-2.
Alors, ils sont 12e de la conférence Ouest, donc encore assez loin finalement des playoffs. Et les Pacers sont 5e de la conférence Est.
C'est ça.
Ce qui m'amène à la question, pourquoi est-ce qu'on a eu une confrontation entre les clubs qui n'appartiennent pas à la même conférence?
Pour faire simple, toutes les équipes de la Ligue, conférence Est et Ouest, rencontrent au moins 2 fois. Il y a plus de matchs pour la conférence Ouest. Les Lakers, ils vont les rencontrer plusieurs fois. Et les Indiana, les Pacers, c'est 1 fois à domicile et 1 fois à l'extérieur. Donc là, on a vu les 2 matchs Spurs-Indiana de la saison.
Et plutôt une mauvaise opération quand même, on va dire au plan comptable pour des Spurs qui sont pas excellents si j'ai bien compris pour l'instant. Ça risque d'être à nouveau comme la saison prochaine, pas de play-off. La saison dernière.
Alors ça va être compliqué parce que là le début d'année 2025 est un petit peu compliqué. Ils ont affronté des grosses équipes et surtout le mois de février il y a ce qu'on appelle le rodeo road trip parce qu'il y a un rodeo à San Antonio, c'est une institution. Donc ils vont passer je crois 9 matchs de suite sur la route. Donc affronter des grosses équipes, donc ça va pas être simple et c'est là vraiment où on va voir ce qu'ils valent. Mais je suis pas forcément très optimiste, mais pour moi ça reste quand même une bonne opération de faire 1-2 contre les Pacers.
Déjà en termes de victoire entre l'année dernière et là ce début de saison, oui. Il y a déjà un gain, donc on oui. sait que c'est peut-être pas cette année, mais ce qui va arriver va être assez fort.
Je suis désolé Victor Missistrano, il faut faire très vite.
Pour faire clair, il faut qu'ils gagnent au moins la moitié de leur match, il faut qu'ils arrivent au moins à 40-41 victoires sur 82.
Voilà, 1-3 points sur le buzzer, c'est du Victor Missistrano, c'est clair, c'est concis, on passe à l'actualité sportive. Sofiane Amazian, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Il y a beaucoup d'ambiance ici. On se croit dans une salle américaine de basket.
Mais venez entrer dans la rotation. C'est le but, il faut que ça tourne. Vous allez nous parler de quoi? De football.
Ouais, c'est pas la balle orange. C'est un autre type de ballon, un autre type de spectacle. On commence par quoi? La Ligue 1, mon cher Hugo?
Ah bah, vous voulez faire redescendre l'ambiance? Allez-y, oui, parlons Ligue 1, bien sûr.
Quoique les supporters brestois qui nous écoutent seraient quand même ravis d'entendre exactement. Que leur équipe a battu le Havre sur le score d'1-0. Il y a 3 matchs en cours. Hugo, l'Olympique Lyonnais d'ailleurs, qui vient d'ouvrir le score sur la pelouse de Nantes 1-0, toujours 0-0, tiens c'est très français ça, Toulouse-Montpellier, puis Lens-Angers 0-0, mais le gros match du week-end, le gros match de ce dimanche, c'est ce fameux Nice-Marseille. Hugo, un duel pour le haut de tableau, Nice qui est 5e, catastrophique en Coupe d'Europe, mais très 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 performant en championnat en face, Marseille qui est 2e, ça se jouera à Nice, 19h45, temps universel.
D'autres pays à visiter?
L'Angleterre.
Évidemment.
Là, il y a plus de buts et il y a plus de spectacles. Brentford qui vient tout simplement de battre Crystal Palace 2-1 avec le 14e but de la saison d'un certain Brian Bemo, l'attaquant camerounais qui s'amuse en Première Ligue. Tottenham, eux, se rapprochent un petit peu de la zone de relégation. Tottenham qui est tout le temps habitué à jouer la Coupe d'Europe, mais là, c'est compliqué hein, pour les joueurs d'Ange Postecoglou qui ont été battus à domicile par l'équipe de Leicester 2-1 en ce moment. Aston Villa affronte West Ham toujours 0-0 et puis le gros match du soir, 19h, temps universel, c'est Manchester United aussi, un gros d'Angleterre qui galère cette saison. Manchester United qui affrontera Fulham qui est 10e au classement.
Vous vouliez nous parler aussi handball, mon cher Sofiane Amazian. Ouais,
parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, ni le
basket. Non, il y a le handball, évidemment, que vous suivez attentivement.
On essaye. En tout cas, c'est dans 3 pays, Hugo. Norvège, Croatie, Et Danemark, on s'intéresse aujourd'hui à la sélection égyptienne qui a l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale. L'Égypte qui dispute aujourd'hui son dernier match du tour principal face à l'équipe du Cap-Vert qui est dernière de ce groupe A. Le Cap-Vert, c'est 4 matchs, 4 défaites, tandis que l'Égypte, c'est 3 victoires et 1 défaite. La donne est simple pour les Égyptiens, pardon, 1 victoire. Et c'est la qualification pour les quarts de finale qui est assurée. En cas de deuxième place, l'Égypte pourrait affronter une certaine équipe de France qui a pour l'instant remporté tous ses matchs avec la manière, donc potentiellement un France-Égypte dans quelques jours pour ces championnats du monde de handball.
Merci beaucoup Sofiane Amazian. On va parler tennis avant de revenir au basket puisque Yannick Sinner a remporté le premier grand chelem de l'année, à savoir l'Open d'Australie. Il était déjà le tenant du titre à Melbourne, l'Italien. Il a battu en finale Alexander Zverev en 3 manches. Zverev qui, lui, l'Allemand, devra encore attendre pour soulever un trophée majeur. Arthur Franc.
Les tifosi l'avaient prédit. Ils étaient nombreux ce dimanche à soutenir Yannick Sinner dans les allées de Melbourne Park. Avant la finale, Valerio, Livigna et Leonardo, maillot de la Squadra Azzurra sur le dos, en étaient persuadés. Sinner triompherait à nouveau.
Ce sera dur, je pense. Je dis 3-1 pour Sinner.
Je pense qu'il va gagner car il l'a déjà emporté l'an dernier, alors il va aussi gagner cette année.
Oui, oui, Sinner est numéro 1 mondial. Je dis qu'il gagnera 3-7-0.
Et forza Sinner!
Résultat, 3-7 sec face au numéro 2 mondial, Alexander Zverev. Toujours aussi parfait, Sinner n'a jamais tremblé. Surpuissant et intouchable.
C'était une performance incroyable de ma part. Tout compte fait, c'est encore une fois un parcours extraordinaire ici en Australie. Je suis très heureux de partager cela avec l'équipe, la famille, les gens que j'aime. C'est super génial.
Il compose pourtant avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Contrôlé positif au Close Table en 2024, Yannick Sinner a été blanchi. Mais il attend un jugement définitif du tribunal arbitral du sport en avril prochain. En attendant, son calme impressionne son entraîneur Darren Cahill.
Nobody's bulletproof.
Personne n'est insensible. Je pense que nous avons tous des moments où cela nous touche un peu. Les matchs de tennis sont pour lui un lieu sûr. C'est là qu'il peut faire ce qu'il veut. Oui, il y a eu beaucoup de pression autour de lui au cours des 9 derniers mois. Il y fait face comme n'importe qui d'autre que j'ai vu faire face à la pression. C'est un jeune homme extraordinaire qui a su mettre cela de côté.
De son côté, Alexander Zverev a encore manqué le coche. L'Allemand a perdu sa 3e finale en Grand Chelem. Il est tombé sur plus fort que lui.
Il est très similaire à Novak lorsqu'il était à son meilleur niveau. Il rate très peu de points et il vous donne l'impression qu'il faut tout le temps surjouer pour avoir une chance dans un échange. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Il est dans un univers différent de tous les autres.
Yannick Sinner, 23 ans, s'est adjugé 3 des 5 derniers tournois majeurs et confirme son statut de patron du tennis mondial. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Retour au basket dans Mondial Sport, les NBA Paris Games qui se sont achevés hier. Les Spurs à Paris, ce n'est pas que Wemby, c'est aussi Sissoko Sidi de son prénom. Il porte aussi le maillot de San Antonio, natif du Val-de-Marne, 20 ans. Lui aussi était de retour à la maison et vous l'avez rencontré, Victor Missistrano.
Bienvenue dans le Texas.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir de revenir à la maison déjà et de voir beaucoup de gens que je connaisse, etc. Et puis voilà quoi. Passer du bon temps avec la famille, passer du bon temps avec les amis, etc.
Comment ça se passe pour vous dans une équipe où on essaye de se faire sa place? Comment c'est pour un jeune joueur NBA comme ça?
Je trouve qu'il faut être patient quoi. Il faut vraiment être patient et je crois que ma chance arrivera un jour, j'espère. Et c'est voilà, comme Popovic dit, pound the rock. Et du coup, voilà, faut rester patient.
Dans votre équipe, vous avez un compatriote que personne ne... Voilà, tout le monde le connaît. Comment c'est de le côtoyer au quotidien?
Non, c'est une personne qui est joviale, qui est un compétiteur, qui veut gagner, quoi. Et je crois qu'on est là pour la même chose, pour gagner des matchs. C'est un bon gars, je le connais depuis 11 ans. Du coup, voilà, ça fait plaisir qu'on soit dans la même équipe.
Bienvenue dans le Texas. Bienvenue dans le Texas. Bienvenue dans le Texas.
Le public français, et même mondial, se rend pas forcément compte d'à quel point la NBA c'est une grosse machine. Là, on a vu arriver votre staff. Il y a combien de personnes dans ce staff? Comment c'est justement toute cette machine?
Il y a plus de 100 personnes qui travaillent pour nous. Il y a tellement de choses qui se passent en dehors des caméras que les gens ne voient pas, qui ne remarquent pas. Après, je pense que toutes les organisations NBA, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on respecte énormément derrière les caméras. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous et les personnes qui vont avoir les matchs des fans NBA.
Quand Evan Fournier est revenu en Europe, il a dit ce qui changeait énormément, c'était le fait de moins voyager. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte non plus, mais en fait, vous voyagez tout le temps.
Pratiquement toutes les semaines, mais à la fin, on s'habitue. Et puis, voilà quoi.
C'est Sidy Sissoko, joueur des Spurs de San Antonio. Plus de 100 personnes dans un staff, ça vous fait rêver, vous, l'ancien basketteur et entraîneur, toujours entraîneur. C'est-à-dire que quand vous entraînez des gamins aujourd'hui, Malik Daou, vous n'êtes pas 100, j'imagine, dans le staff. On a du mal à se rendre compte un petit peu de ce que représente une franchise NBA en termes de machinerie.
Je pense que c'est un rêve. C'est un rêve pour tout joueur, pour tout jeune joueur. Et il le dit bien, sa chance arrivera. Il faut être patient. Il faut travailler. Et éviter de gamberger parce que parfois les joueurs en sont conscients, ce sont les entourages qui sont un peu « pourquoi tu joues pas? Pourquoi le coach il te fait pas rentrer ?» Mais lui, il connaît son projet, il sait ce qu'il veut, voilà, lui de travailler et petit à petit de gagner les minutes que le coach veut bien lui offrir. Et moi je dis souvent aux gamins, si je te donne une minute, essaye d'en avoir deux. Si je te donne deux minutes, essaie d'en avoir quatre. Et au fur et à mesure. Voilà. Donc, je pense que pour Sidy, il faut être patient et continuer de travailler.
Ouais, un discours d'humilité. Alors, je ne dis pas que Wembanyama ne l'est pas, mais c'est vrai qu'il était très starifié.
Le même statut.
Voilà, il y a aussi d'autres statuts en NBA. Sarah Danint, ancienne escrimeuse. 100 personnes dans un staff, une telle machinerie en tant que sportif de haut niveau, vous imaginez ça? C'est quelque chose qui vous fait rêver ou qui vous impressionne?
Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien kiffé. Alors moi, j'ai toujours aussi aimé jouer avec le public en criant, en gueulant, et ça fait partie un petit peu, je ne sais pas si c'est parce que je kiffe la NBA, mais en tout cas, on a beaucoup ce truc de guerrier à l'escrime. Et puis les JO, on est des milliers, donc il y a des milliers de personnes dans l'enceinte. Donc il faut juste faire avec. Et ce qui est important, je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est vraiment une fois que nous, on sait exactement ce qu'on veut réaliser et qu'on sait qu'on a aussi cette relation, cette de confiance qu'on crée avec l'entraîneur, effectivement, dès qu'on a une minute ou dès qu'on est rentré sur un match en équipe de France, en fait, il faut essayer d'être hyper performant ou performante pour justement revenir. Et ça, effectivement, notre entourage n'est pas forcément aligné, n'est pas toujours aligné avec ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, en fait.
Mais là, l'avantage de Sidy Sissoko, c'est qu'il a l'occasion, comme il le dit lui-même, de parler à un certain Popovic, donc qui est donc son entraîneur en chef, et ça se pose là en termes de sagesse, on va dire. Théo Quintard, vous qui le côtoyez aussi, ce Popovic, pas au quotidien, mais presque.
Ouais, alors il faut rappeler qu'il n'est plus là depuis début novembre, parce qu'il a fait un petit AVC. Voilà, les Spurs ont dit au cours de la semaine qu'ils étaient optimiste pour un retour possiblement cette saison, mais ils n'ont pas annoncé de date, donc le flou reste. Voilà. Après, moi, Sidy Sissoko, je vais nuancer ce que vous avez dit, Malik, parce que il y a un petit peu un double discours. Quand Popovic était encore en place, il disait que c'était un projet sur le long terme qui ferait partie du programme des Spurs pour de longues années. Mais le problème, c'est ce qui est important en NBA, c'est la première impression qu'on laisse. Et là, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et ça fait déjà un an et demi qu'il est dans la Ligue, ce qui est beaucoup. Parce que les carrières NBA, c'est des carrières très courtes si on ne performe pas tout de suite. Et pour l'instant, il n'a pas eu sa place. Et donc, du coup, voilà, moi, je ne comprends pas trop le projet Sidy Sissoko, ce qu'il joue en G-League, qui est la ligue de développement de la NBA. Il performe, mais côté NBA, il est un petit peu bouché.
Et il y a urgence, Hugo, parce que son contrat se termine à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'il y a une année qui est en option, mais il est possible qu'à la fin de la saison, Sidy Sissoko n'ait plus de club.
Les coulisses de cette délocalisation de la NBA à Paris, ce sont aussi les mots des acteurs de l'ombre. Alors Sidy Sissoko est un peu un acteur de l'ombre malgré lui. On a parlé du staff également. Mettons à l'honneur enfin les maîtres de cérémonie. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça, Victor Missistrano. Les speakers, ceux qui ambiancent la salle au micro. Vous avez rencontré notamment l'un d'entre eux. Vous nous le présentez rapidement.
Oui, il s'appelle Vincent Royer. Il est l'un des trois speakers parce que en NBA, il faut au moins ça. Il s'occupe d'autres équipes, mais là c'était un petit peu le climax, l'apogée pour lui de cette année.
Un speaker français qui s'exprime sur la NBA, Vincent Royer.
What's up with them Spurs, bro?
Spurs.
All Spurs, everything.
All Spurs, everything.
King Kali.
Spurs.
Concrètement, c'est quoi votre job ce soir?
Alors mon job ce soir, moi je suis donc Vincent Royer, je suis le host français du match Spurs-Pacers. Il y a un autre host des Spurs, une des voix des Spurs qui sera là ce soir pour ambiancer le public. Donc nous on s'occupera vraiment avec Charlie, donc le MC des Spurs, on s'occupera vraiment de l'animation dans la salle et d'aller chercher les fans des Spurs et des Pacers. Et puis notre collègue Benjamin Clément, le français, sera lui la voix sportive du match, ce qu'on appelle le PA Announcer, Public Announcer. Donc voilà, on sera trois ce soir.
Et vous avez l'habitude de faire ça pour d'autres matchs que la NBA ?
Alors moi j'ai la chance d'être un des speakers de l'équipe de France pour la Fédération Française de Basket, tout comme Benjamin Clément. Donc on accompagne les équipes de France Basket 5-5 et 3-3 sur les événements en France. Alors soit des matchs de préparation, soit des matchs officiels. Et puis j'ai aussi la chance d'être le speaker officiel du MSB, le Mansard Basket en Betclic Elite en première division. Donc je fais speaker basket dans différents niveaux.
Dont le plus haut, la NBA. Concrètement, ça change quoi sur un match NBA?
Ça change tout. On est samedi soir, les répétitions ont commencé lundi après-midi avec des premières lectures de conducteurs, avec des premières répétitions, et tout au long de la semaine on a fait des répétitions pour que toutes les séquences, que ce soit les séquences sportives ou les séquences animation, soient à la seconde près, soit timées, soit avec le bon angle de caméra, la bonne lumière. Ça change tout. La NBA, c'est un autre monde. Il n'y a pas vraiment d'adjectif pour résumer tout ça. On est dans une autre dimension. Donc c'est rigueur, professionnalisme et un petit peu de fun quand même.
Et à la fin, qu'est-ce qui fait que la soirée a été bonne? C'est quoi pour vous une bonne soirée, un bon match?
Déjà, la bonne soirée, elle dépend aussi du résultat du match. C'est-à-dire que si on a un match hyper serré, ça va nous aider, nous, à aller chercher le public. Donc je dirais qu'une soirée réussie, c'est quand le match a été chaud jusqu'à la fin, qu'il n'y a pas eu 30 points d'écart au bout de 25 minutes, chaud jusqu'à la fin, que le public vous ait suivi et qu'à la fin, le public reparte de l'Accor Arena de Paris-Bercy avec le sourire et peut-être en se disant quand est-ce que la NBA, reviendra en France.
On the Spurs and you getting trapped. Somebody better tell Charles Barkley. San Antonio with 2 million deep. Watch what you say.
Là, c'est le public français, mais pas uniquement. Il y a 53 nationalités au total. Comment on va chercher tous ces gens qui parlent pas forcément français?
Et ben c'est là où Charlie, le host des Spurs, va intervenir. C'est que lui va intervenir en anglais ce soir. Moi, je serai en français et puis on va aller chercher ces fameuses 53 nationalités présentes à Bercy ce soir. Et puis des petits mots en anglais rapides, des petits mots en français rapides qui sont compréhensibles de tout le monde.
Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon speaker?
Alors paradoxalement, un bon speaker, c'est un speaker qui sait se taire au bon moment et qui laisse la place au public. Un bon speaker, c'est un speaker qui parle pas beaucoup et qui va intervenir de manière chirurgicale pour laisser la place au show, au public, au match et puis à l'ambiance de l'Accor Arena.
Dernière question, qu'est-ce que ça fait de faire ce boulot quand sur le parquet, pas loin là, il y a un type qui fait 2m24 et que tout le monde regarde?
Ce qui est drôle, c'est que le type qui fait 2m24, moi j'ai eu la chance de faire un tournoi espoir avec lui il y a une dizaine d'années, c'est du côté de Charenton-le-Pont à côté de Bercy. J'ai eu la chance aussi d'être son speaker en équipe de France. Le fait que Wemby revienne, c'est juste magique parce que je dirais qu'on sert à rien en fait. Wemby suffit à lui-même. Wemby était là vendredi pour le match des célébrités, évidemment jeudi, et quand Wemby arrive sur le terrain, voilà, ça suffit à lui-même, il n'y a rien à dire.
Et juste puisqu'on en parle, vous le côtoyez, c'est un garçon comment? Est-ce que ça vous arrive de discuter avec lui?
Ouais, alors j'ai pu discuter avec lui il y a 2 ans par exemple sur le All-Star Game français ici en décembre. On se croise, il sait qui je suis, je sais évidemment qui il est. On n'a pas le temps de trop parler parce qu'il est pris par ses obligations sportives et autres. Mais c'est un mec qui a les pieds sur terre. C'est-à-dire que je pense qu'il n'oublie pas d'où il vient. Et puis il a le respect de toutes les têtes qu'il connaît et même les autres. C'est-à-dire qu'il s'arrête 3 secondes pour dire bonjour et dire comment ça va. Et ça fait de lui vraiment un alien et un mec à part.
Vincent Royer, speaker, élément rouage essentiel du show NBA à Paris cette semaine. Ce show NBA, justement, C'est habituel donc de le délocaliser hors des États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de la tradition de la Ligue.
Oui, ça fait partie de la tradition de la Ligue. Il y a eu des matchs à Mexico depuis quelques années, des matchs aussi de préparation aux Émirats Arabes Unis. Et la NBA a cette volonté d'intensifier encore plus ça. Adam Silver parlait même de couper la saison NBA l'espace de 10 jours pour faire des matchs délocalisés partout dans le monde pour faire la promotion de la NBA qui est une marque aux quatre coins du monde et ramener encore plus de monde, plus de fans et plus d'argent aussi du coup.
Est-ce que c'est cette logique expansionniste qu'on constate expansionniste, bon le mot fait un peu froid dans le dos, mais vous commentez Malik Daou, la BAL, donc la deuxième NBA pour le continent africain. On parlait ici même sur ce plateau d'une NBA européenne peut-être, on parlait aussi de la concurrence quelque part, alors là pareil le mot est un peu fort de l'Euroleague, il y a vraiment cette logique là de la NBA de ne pas lâcher sur sa volonté de conquérir tous les publics.
Bah, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà du sportif, la NBA, c'est un produit. C'est un produit qu'on essaye de vendre. Et tous les moyens pour vendre ce produit-là sont bons. Moi, je me souviens de la bagarre qu'on a eue il y a 2 ans pour avoir les droits de diffuser la NBA sur Canal Plus Afrique. Et je peux vous dire que ça chiffre. Voilà, c'est un produit qu'il faut vendre et ils essayent de le vendre par tous les moyens. Parfois, c'est pas toujours fair play, mais il faut l'accepter comme tel. Et je pense que la NBA gagne en popularité grâce à ses visées marketing. Maintenant, c'est aux autres aussi de se réveiller. C'est aux autres de se réveiller. Moi, je commente la BAL. Je dis aux jeunes Africains, si vous ne voulez pas mourir en mer en essayant de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, brillez en BAL et des gens viendront vous chercher sur place.
Sarah Danint, il y a eu pas mal de... Il y a eu surtout un journaliste polémiste assez connu en France du côté de RMC disait, c'est un peu un show entre guillemets bidon, on nous a envoyé des matchs pas géniaux, tout le monde se couche un peu devant la NBA. Vous qui êtes une fan qui n'avait pas d'intérêt à défendre particulièrement la NBA, vous comprenez les critiques ou pas du tout? Vous trouvez que c'est aussi ça qui fait la magie de la NBA, vous qui avez appris à aimer ce championnat très loin de chez lui, vous faites partie de ces gens qui ont été conquises par la NBA, alors vous n'êtes pas américaine.
Non, je suis pas du tout américaine, moi je viens de la Guadeloupe, c'était pas très loin, donc c'est vrai que je regardais les matchs quand j'étais déjà gamine, et quand je suis arrivée en équipe de France à Bordeaux, je me levais la nuit quand même pour regarder les matchs, donc oui, j'étais déjà prise déjà très très jeune, donc je sais pas si je vais arriver vraiment à défendre les autres, mais oui, c'est une grosse machine, s'ils investissent de l'argent, et c'est vrai qu'en retour, ils attendent énormément, enfin le retour sur investissement est énorme, le merchandising il est fou, là si on regarde, si on prend juste Wemby, le gars il est arrivé il y a 2 ans, enfin en 2 ans, il a fait monter la valeur de sa franchise de 2 milliards de dollars. Je reprends, en 2 ans, la franchise a pris une valeur de 2 milliards de dollars, ce qui est quand même assez fou. Et oui, je peux comprendre qu'on puisse se dire que c'est un gros show, mais c'est en même temps, si vous avez autre chose à présenter qui peut être aussi fort, allez-y, en fait, c'est encore ouvert pour l'instant.
Mais je reviens à ce que disait le speaker que vous avez eu au micro tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression que même lui, il a complètement redécouvert son métier. Il est passé dans une autre dimension juste avec l'arrivée d'un match NBA, Victor Misistrano.
Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. La NBA, c'est une très grosse machine qui a envie de concurrencer le football, qui d'ailleurs, le football, n'a pas vraiment de leçons à donner en matière de marketing. On parle de délocalisation de matchs. Il y en a aussi de nouvelles compétitions. Et c'est vrai qu'il y a à peu près les mêmes idées de pimenter un petit peu les choses. Il y a une compétition qui a été insérée en cours de saison. Il y a ces délocalisations. Voilà, la NBA essaye un petit peu de se réinventer.
Allez, on
et sur
vient...
cette opération-là, Hugo, sur cette semaine-là, la NBA ne gagne pas d'argent.
Mais
c'est,
non,
plus,
sur de la
c'est
pub.
Plus tard
voilà,
que les
on est au long cours.
Voilà, ça aussi, il faut qu'on le dise.
On en vient, on en vient au moment de gloire, au bouquet final, le moment de gloire de Théo Quintard. On sait que Wemby a fait découvrir un fast-food de la région parisienne à ses coéquipiers entre les deux matchs de jeudi et de samedi, le 129 de Nanterre. Alors, il existe d'autres 129, c'est le nom du restaurant, notamment à Saint-Denis, avec un client fameux nommé Karim Baldé. Le patron de l'établissement du 129 de Nanterre a vu la NBA débarquer dans son établissement ce vendredi, n'est-ce pas Théo Quintard? Ce dimanche, juste avant de venir nous voir, le Wemby reporter a évidemment mené l'enquête. Vous êtes allé là où Wemby et ses coéquipiers donc, sont allés manger vendredi. On écoute.
J'étais surpris. parce que je savais pas qui c'était. On m'avait prévenu la veille qu'il y avait des basketteurs qui allaient venir. On nous avait pas prévenu qui c'était. Mais sur le coup, quand ils sont venus, on était tous surpris, les cuisiniers, moi et tout le monde. Et même le quartier carrément. Et ça s'est super bien passé. Il était simple, il savait ce qu'il voulait manger. Il a choisi même pour ses coéquipiers. Après ses amis, je pense qu'il connaissait, c'était ses amis de France, je pense. Et il a choisi le chicken, là. Il savait déjà ce qu'il voulait, il connaissait. Et voilà, en tout cas, il était super sympa.
Et qu'est-ce qu'il a pris du coup? Il a pris, parlez-moi un peu de ce qu'il a pris, quelle sauce, tout ça.
Les gens sont curieux.
Bon, si je me rappelle bien, il avait pris un chicken rouge. La sauce était mayo biggie. Et les crudités, je pense que c'était... Je me rappelle plus des crudités. Mais en tout cas, la sauce était mayo biggie.
Et je crois savoir qu'il a laissé un pourboire assez sympathique.
Oui, il a laissé un bon petit pourboire. Il était lui-même, il était sympathique, mais il a laissé un très bon pourboire.
Il a laissé combien, par curiosité?
Il a laissé un bon pourboire. Okay. Franchement, il se comportait normalement. Comme s'il allait ramener personne, il s'est comporté normalement. Il prenait son temps, même pour sortir, il a pris son temps, il est même resté devant la porte. Franchement, il prenait son temps. Il n'était pas stressé en tout cas. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a un engouement. On le voit. Depuis vendredi, on l'a vu le soir même et le lendemain. Depuis que ça a filtré sur les réseaux, il y a une vidéo qui est apparue sur les réseaux et ça... J'arrive pas à expliquer en fait, il y a vraiment du monde qui est arrivé. Même s'il y avait du monde qui connaissait déjà le 129 avant. Depuis qu'il est venu en fait, on parle de ça tous les jours. Aujourd'hui même. Ça, c'est un très bon coup de pub. C'est un très bon coup de pub. Les gens viennent de loin. J'ai su qu'hier, il y avait des gens qui venaient de 77. Je l'ai vu dans l'article. Et je suis étonné de faire autant de route pour manger. Après, je sais que c'est bon, copieux, mais je ne savais pas qu'il venait d'aussi loin.
Quel reporter ce Wemby Théo Quintard. Vous êtes allé jusqu'à demander plusieurs fois le montant du pourboire et vraiment la sauce choisie par Wemby. N'empêche, elle a fait un buzz incroyable, cette histoire de Wemby qui pose le fast-food made in France sur la carte de la NBA, si je puis dire. Il emmène les coéquipiers. On sait qu'il y a une culture urbaine très forte dans la NBA. Et grâce à Wemby ou à d'autres joueurs français, maintenant, c'est la culture urbaine made in Île-de-France aussi qui se mélange. C'est assez sympa, ça.
Ouais, c'est ça. Et j'étais tout à l'heure, du coup, avant de venir ici à RFI, vers sous les coups de 3h30.
Et vous êtes un tel professionnel que vous avez même goûté.
Voilà, c'est ça. Je suis allé jusqu'au bout. Moi, je fais les choses jusqu'au bout, pas à moitié.
Et il y avait du monde alors.
Et voilà, c'est ça, j'ai goûté, il y avait encore 100 personnes, quoi. Donc, c'était assez impressionnant. Et j'ai goûté à San Antonio le Wemby Burger à base de foie gras français. Pourquoi foie gras français, je ne sais pas. Mais c'était pas très bon. Mais là, oui, je confirme, c'était bon. Donc, allez-y sans souci.
Incroyable. Pas très professionnel, ceci dit. Je ne sais pas, le kebab.
En veille de
entre
match.
Entre deux matchs, veille de match. Je m'adresse aux athlètes autour de cette
c'est
table.
C'est toujours mieux qu'un beat qui prend un burger dans le vestiaire avant un match. C'est un type de comparaison.
Non, et puis se faire plaisir aussi. C'est
voilà. Et puis voilà, veille de match. Bon, je pense qu'on peut se faire, peut se faire un peu plaisir. Et puis, je pense que Wemby, il sait d'où il vient et ça, tout le monde peut le louer pour ça. Il sait d'où il vient. Ce sont des petits plaisirs aussi dont il voulait faire bénéficier.
Oui, c'est ça qui est, sympa.
Et je pense que au-delà du basket, il faut parce que en France, on a tendance un peu à haïr nos héros. Il faut que ce petit-là et Chris Paul l'a bien dit en conférence de presse, il faut vraiment qu'on puisse le choyer et l'accompagner le plus haut possible.
Ouais. Bon, vous êtes là pour ça, Malik Dao, Sarah Danint, Victor Missistrano et Théo Quintard. Bon vent, bon retour aux États-Unis, Théo Quintard. C'était sympa de vous avoir en chair en os. Et puis Valentin Vanner, le DJ de Mondial Sport, assisté de Laurent Philippot. Valentin Vanner qui s'est lâché, hein, tout simplement. C'est aussi ça, la magie de la NBA à Paris. Mondial Sport revient la semaine prochaine. Très bonne soirée, très bonne fin de week-end sur RFI.
Ahoua!